Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
À quelques jours de son départ pour le Brésil, le pape François a tenu à rencontrer son prédécesseur. C'est en effet Benoît XVI qui avait choisi Rio comme lieu pour les 28e JMJ. Et puis dans ce magazine, nous irons avant François, dans la favela de Varginha. Le pape s'y rendra jeudi prochain. Chaque année, l'Église prie pour le roi des Belges lors de la fête nationale le 21 juillet. Une célébration du Te Deum bien particulière ce dimanche. Le roi Albert II abdique en effet à la faveur de son fils Philippe. Nous en parlons avec le porte-parole des évêques de Belgique. Et puis enfin, avant le commentaire de l'évangile du père Montavit, le livre pour Dieu de cette semaine s'intitule « La foi, un don à vivre ». Gérard Testard nous expliquera comment, pour lui, croire en Dieu implique de croire en la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Vatican en langue française. Dans seulement quelques jours maintenant commenceront les 28e journée mondiale de la jeunesse. Des milliers de jeunes se sont d'ores et déjà envolés pour le Brésil. D'autres sont encore en chemin. C'est à eux que le pape a adressé ce samedi un message. « Chers jeunes », écrit-il dans un tweet, « je sais que beaucoup d'entre vous êtes encore en route pour Rio. Que le Seigneur vous accompagne en chemin ». Lundi, le Brésil, le plus grand pays catholique au monde, s'apprête donc à accueillir le pape à l'occasion des JMJ. L'occasion pour François d'entrer en contact avec des milliers de jeunes pour leur délivrer un message d'espoir, mais également le cadre de rencontres officielles, de visites aussi pour aller au plus près des réalités sociales de ce pays continent qu'est le Brésil. Le pape inaugurera ainsi un centre d'accueil pour les personnes dépendantes de drogue. Et puis 33 ans après Jean-Paul II à Vidigal, au sud de Rio, le pape François se rendra lui aussi dans une favela. Il rendra visite aux habitants de Varginha, une petite favela du complexe de Manguinhos, un des quartiers les plus pauvres et jusqu'à récemment un des plus dangereux de Rio. La ligne de chemin de fer qui séparait plusieurs favelas était d'ailleurs surnommée la bande de Gaza en raison des nombreux affrontements entre factions ennemies ou entre trafiquants et policiers. Manguinhos, depuis, a été pacifié à la fin de l'année 2012. Le reportage tout de suite dans cette favela, reportage signé Mélanie Ferreira.
Au bout de la favela, sur les bords d'une rivière polluée, Maria de Lourdes ramasse son linge. Cette croyante de 74 ans habite ici depuis 30 ans. Et pour elle, Varginha est un endroit où il fait bon vivre, surtout depuis la pacification.
La violence était là seulement quand les jeunes trafiquants étaient ici. Ils marchaient armés. Après l'arrivée de l'UPP, ça s'est beaucoup calmé, grâce à Dieu. Les seules armes que je vois maintenant, ce sont celles de la police.
Plus d'armes visibles donc, mais le trafic de drogue continue. Pour Everaldo Oliveira, habitant de la favela et organisateur de la visite du pape, la pacification n'a pas tout changé et la venue du Saint-Père ne peut pas faire de miracle non plus pour la communauté catholique.
A gente tem bem consciência de que a vida muda naquele momento de preparação.
On a bien conscience que notre vie ne change que pendant les préparatifs, mais ça ne dure pas. Notre communauté doit être forte pour ne pas tomber dans l'illusion de se croire la meilleure et que parce que nous recevons le pape, nous sommes la communauté. Non, les problèmes seront toujours les mêmes et nous resterons une petite communauté.
Petite parce que dans cette favela d'un millier d'habitants, Everaldo avoue qu'un peu plus de la moitié sont évangéliques, ce qui ne les empêche pas, selon lui, de participer à la fête.
Je crois que pour chaque peuple qui reçoit le leader d'un pays, comme de l'Église catholique, il est impossible de ne pas ressentir de la joie dans la communauté. Nous allons avoir le premier hôtel consacré par un pape des Amériques, alors pour les gens, c'est un symbole très fort.
Un geste fort de la part du pape François, fervent défenseur d'une église pauvre pour les pauvres. Mélanie Ferreira à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
Et avant de partir pour Rio, le pape François a souhaité rencontrer son prédécesseur. Vendredi après-midi, il lui a demandé d'accompagner par la prière son prochain voyage et les jeunes réunis pour les JMJ de Rio, ville choisie par Benoît XVI pour cette 28e édition. François lui a apporté le livret du programme du voyage afin qu'il puisse y participer spirituellement. Et s'il le veut, suivre les retransmissions des divers événements. Il lui a également offert la médaille préparée pour commémorer ce déplacement. Benoît XVI, de son côté, a assuré le pape François de sa prière, rappelant les expériences intenses et merveilleuses des rencontres précédentes des JMJ avec les jeunes à Cologne, Sydney et Madrid. Deux nominations ce samedi au Vatican. Le pape a nommé l'archevêque de Téhéran, Mgr Ramzi Garmou, visiteur apostolique pour les Chaldéens qui résident en Europe. Et puis le cardinal Angelo Scola, l'archevêque de Milan, sera lui l'envoyé spécial du pape pour les célébrations des 1700 ans de l'édit de Milan. Des célébrations qui auront lieu en Serbie le 20 et 21 septembre prochain. Passation de pouvoir. En Belgique, ce dimanche, le roi Albert II abdiquera à la faveur de son fils Philippe. Comme chaque année pour la fête nationale, l'église prie pour le roi. Mais ce dimanche, le Tédéum, célébré à 9h dans la cathédrale Saint-Michel et Gudule, sera dédié tant au roi Albert II qu'à son successeur. Comme ils l'ont fait le 3 juillet dernier, dans un communiqué, les évêques belges assureront le futur roi de leur confiance, de leur prière. Ils exprimeront également leur reconnaissance au roi Albert II pour le service éminent qu'il a rendu à la nation. Le père Tommy Scholtes est le porte-parole de la Conférence des évêques de Belgique.
Le pays tout entier rend hommage au roi Albert II et lui est reconnaissant. Je pense qu'il y a une reconnaissance fondamentale pour le don d'humanité, le don de diplomatie, le don de gestion qu'il a eu des choses publiques de l'État. Dans une Belgique qui n'est pas toujours facile à gouverner, la personnalité du roi a été, par son humanisme, je dirais par sa bonhomie, par sa simplicité, un facteur d'unité qui était bien nécessaire pour le pays. De ce point de vue-là, les évêques, évidemment, lui sont très reconnaissants pour avoir apporté sa contribution notable.
Est-ce que vous vous référez à des moments précis de son règne ?
Mais je pense en particulier à la dernière période où le gouvernement a été dans une situation très délicate. Le pays a été sans gouvernement même pendant plus de 500 jours, ce qui est quand même considérable. Et je pense que c'est la diplomatie du roi et le fait d'avoir donné une chance à tous les partis politiques, quels qu'ils soient, de former ce gouvernement ou de le préformer. C'est la patience du roi qui a permis que la crise totale soit évitée.
Et dans les relations avec l'Église, on sait que Baudouin était très proche, un catholique très engagé. Est-ce que là, ça s'est passé de la même manière ?
Les relations avec l'Église ont toujours été très bonnes et à titre personnel, le roi Albert était évidemment un homme pratiquant. Dans les années 1985, il y a vraiment eu une réconciliation au sein du couple royal qui avait vécu une période difficile antérieurement et je crois qu'on a toujours été très, très heureux de voir cette réconciliation et la pratique de la vie chrétienne du roi et en même temps il fallait laisser le roi dans sa situation de chef de l'État, ne pas donner l'impression vis-à-vis de l'opinion publique qu'il était sous la coupe de quiconque.
Au-delà du niveau personnel, au niveau politique, il y a eu quand même des moments où il a exprimé son catholicisme.
Il a vécu la situation de manière différente de son frère Baudouin. Le frère Baudouin s'était mis dans la situation de l'impossibilité de régner au moment de la loi sur l'avortement. Ici, au moment de la signature de la loi sur l'euthanasie, y compris du mariage gay, ce qui n'était certainement pas l'avis strictement personnel du roi. Étant donné que les institutions politiques avaient voté en majorité, il a accepté de promulguer les lois pour respecter la démocratie du pays. Et les politiques du pays lui en ont été reconnaissants. Et je pense que si le roi Albert avait décidé de faire autrement, c'était la monarchie elle-même qui était gravement menacée.
Pour parler de son successeur, le prince Philippe, le futur roi Philippe, vous avez exprimé votre confiance, vous l'avez assuré aussi de vos prières. Est-ce que vous avez des recommandations peut-être par rapport à sa future mission ?
Moi, je ne me permettrai pas de faire des recommandations par rapport à la future mission du roi, mais en même temps, je crois que s'il peut, dans un premier temps, entrer dans les pas de son père avec cette même présence auprès de la population dans toute sa diversité, s'il peut être à l'écoute écoute de tout le peuple, et y compris des responsables politiques, il apprendra à assumer sa mission. La difficulté d'un prince qui devient roi, c'est que du jour au lendemain, je dirais d'une minute à l'autre, il n'est plus la même personnalité, il n'a plus la même responsabilité. Et si le peuple qui vit en Belgique n'est pas nécessairement unanime à l'égard du futur roi, il y a quand même une très grande majorité de la population qui sait l'importance que le rôle du roi comprend. Et donc, si cette importance est grande, si les gens tiennent au pays, si les gens tiennent à vivre ensemble, qui est difficile en Belgique, il faut le dire, il faut l'accepter. C'est peut-être à travers le système de la monarchie et à travers la personnalité du monarque que l'on peut le faire. C'est un homme de qualité, c'est un homme qui a déjà énormément d'expérience et rencontré énormément de milieux. Avec son épouse, la future reine Mathilde, ils forment un couple heureux. Ils sont aussi, à titre personnel, des chrétiens pratiquants. Ils vont à l'Eucharistie dans différentes paroisses de Bruxelles régulièrement. On connaît leurs convictions profondes, tout en étant sûr du respect qu'ils apporteront à toutes les couches de la population.
Et pour tous ceux qui souhaiteraient suivre en direct le Te Deum qui sera célébré ce dimanche, il est retransmis en direct et commenté par le Père Scholtes sur le site rtlinfo.be. Le player de la chaîne Info est exceptionnellement accessible depuis le monde entier. Seconde partie de cette émission, nous retrouvons cette semaine Gérard Testard et son livre intitulé « La foi, un don à vivre ». Dans cet entretien, cet ancien agriculteur devenu président international d'une communauté nouvelle, Fondatio, qui est membre également de la commission de veille et d'expertise dans l'Église de France et en Europe, eh bien, il nous fait partager la manière dont les difficultés vécues dans la foi peuvent être des chemins de vie et de communion avec le Seigneur. Gérard Testard explique que le fait de croire implique d'abord de croire en la vie. Il s'agit d'une rediffusion.
Gérard Testard, à la page 156, vous dites « Le chrétien peut être aussi désarmé que les autres dans les difficultés et il vit avec ce paradoxe, c'est-à-dire la conviction d'être aimé par Dieu et par ses frères. »
La vie, nous sommes les mêmes. Moi, il y a quelques semaines, ma maison a brûlé, ben, je n'ai pas été préservé particulièrement parce que je donne ma vie à Dieu. Là où je suis attendu, c'est comment je vis cet événement dans la foi que Dieu, non seulement ben, ne me veut pas de mal, mais peut-être eh bien, va me faire la grâce, plus importante encore, d'une union à lui et d'une confiance en lui. Parce que je pense qu'il est aussi important de croire en la vie que de croire en Dieu. Et croire en la vie et croire en Dieu, c'est le même mouvement. Quand dans l'Évangile, on voit tous ces épisodes de personnes qui crient vers lui, qui veulent marcher, qui veulent voir, eh bien, nous sommes tous avec nos handicaps, nos blessures. Eh bien, Jésus, la question qu'il pose, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et donc, il nous invite à croire en nous, pas en croire en nous pour être auto-centré, mais croire en nous qui sommes appelés à devenir des hommes et des femmes debout, des hommes et des femmes qui marchent. Ce qu'est marcher dans la foi, ce qu'est vivre par la foi, c'est apprendre à vivre et croire en la vie et se laisser renouveler dans tout ce qui fait notre vie.
Gérard Testard, vous avez toute une partie sur les fruits de la foi. La confiance est un des fruits de la foi. Vous pouvez nous en donner d'autres ?
Nous apprenons en vivant par la foi à vivre, je crois, avec beaucoup plus de liberté. Contrairement à ce qu'on peut penser, vivre par la foi, c'est d'abord vivre en liberté. C'est aussi rencontrer, je pense, la joie. Comme disait saint François, la joie parfaite, ce n'est pas d'avoir reçu 36 000 choses. La joie parfaite, c'est, je crois, c'est vivre pour le Christ et vivre pour l'autre. Il n'y a pas de satisfaction profonde à vivre pour soi. Donc, vivre pour lui, pour le Seigneur, qui nous fait en même temps vivre pour nos frères, eh bien, ça rend très heureux. Ça nous fait toucher à ce qu'est la joie parfaite. Ce sont quelques fruits. Voilà, c'est une manière aussi de réagir aux événements. Les événements, ben, sont les mêmes pour tout le monde. Mais il y a une manière spirituelle de réagir aux événements qui fait que non seulement ces événements peuvent ne pas être des murs, des échecs, sont des occasions d'aller plus loin, parce que le Seigneur, il vient ouvrir des brèches, redonner de la lumière là où il manque de lumière. Chaque vie, chaque domaine de sa vie offert à Dieu peut être transformé. Manière de vivre, ma relation à l'argent, la relation à l'autre, la relation à mon conjoint, etc. etc.
Pour conclure, Gérard Tétard, est-ce qu'on pourrait dire que, comme béatitude à votre livre, « Heureux, toi qui crois, car tu n'arrêteras pas de marcher » ?
Oui, c'est une belle manière de conclure. Je crois que vivre par la foi, c'est répondre à des invitations, c'est dire oui. C'est à l'image de Marie, prononcer un fiat profond et des oui successifs. Quand je vous contemple la vie de Marie, bien, je dirais d'abord c'est une marcheuse, c'est une femme qui a été toujours dans l'élan et qui a dit oui. Et je crois que vivre par la foi, eh bien, c'est être dans cet élan, le même élan que Marie. Et nous, par notre baptême et par notre cheminement, quand nous croyons en Dieu, nous sommes introduits dans ce même élan de vie. Nous sommes dans une époque où les gens manquent d'horizon, tournent sur eux-mêmes. Cette quête de soi, elle est belle, elle est juste, mais elle doit être transformée par une quête plus profonde qui nous décentre de nous-mêmes. Je préfère des gens christocentrés à des gens autocentrés, c'est-à-dire vivre avec le Christ, c'est marcher avec lui sur les chemins de la vie.
Et comme chaque samedi, retrouvons le père Pascal Montavite et son commentaire de l'évangile du 16e dimanche du temps ordinaire. Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison.
L'évangile de ce jour nous rappelle un épisode bien connu. Jésus est reçu chez Marthe, qui est accaparée par les multiples occupations du service, alors que Marie, sa sœur, reste là, au pied de Jésus. Habituellement, le commentateur de cet évangile s'empresse de dire « Bien sûr, Jésus ne condamne pas Marthe. Marthe et Marie ont chacun leur rôle et les deux sont nécessaires au sein de l'Église. Il y a la vie contemplative et la vie apostolique. Les deux réalités ensemble constituent l'Église. » Cette affirmation n'est pas fausse, mais elle n'est pas non plus complètement vraie. Elle a besoin d'être précisée, car pour qui lit l'Évangile avec attention, il est clair que Marthe reçoit un reproche alors que Marie, elle, est présentée comme exemplaire. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Voyons cela plus en détail. En premier lieu, il est vrai que le rôle de Marthe est indispensable. Il est précisé que c'est elle qui accueille Jésus dans sa maison, et si elle ne l'avait pas fait, Marie n'aurait pas eu l'opportunité de se tenir assise au pied du Seigneur. Être un homme, une femme, d'action, est donc indispensable dans la vie du disciple. Il convient de s'engager, de prendre des initiatives. Survient toutefois un danger, un piège que Marthe n'a pas su éviter, l'activisme. Elle a obtenu que le Seigneur entre dans sa demeure, et au lieu de demeurer là, à l'écouter, elle s'agite. Le fruit de cette agitation est la jalousie. « Ma sœur me laisse seule à faire le service, dis-lui donc de m'aider. » Marthe avait bien commencé, elle s'est préparée pour accueillir Jésus, mais une fois Jésus chez elle, elle continue ses activités et oublie d'aller à l'essentiel. Elle demande alors à Jésus de changer le cœur de Marie afin que celle-ci se lève et s'agite aussi. Mais Jésus préfère changer le cœur de Marthe. Voilà un enseignement intéressant. Notre prière, parfois, nous conduit à demander au Seigneur de changer notre prochain. Et Jésus nous répond en nous demandant de nous changer nous-mêmes. Marthe a besoin d'apprendre à s'arrêter, à se mettre au pied de Jésus et à écouter sa parole. Marthe est vraiment un exemple à méditer pour notre temps. Qui, de nos jours, peut ne pas se reconnaître, au moins un peu, dans une Marthe qui s'active pour le Seigneur, mais qui ne sait pas prendre du temps pour l'écouter. Une Marthe qui finit par juger sa sœur, de qui, en fait, elle devrait prendre exemple. Cet enseignement n'est pas facile à entendre. Savoir s'arrêter peut s'avérer très exigeant. Savoir s'arrêter, c'est tout d'abord reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes. C'est le sens même du sabbat chez les Juifs. Le septième jour, toute activité est interdite, car tout est remis à Dieu. L'homme reconnaît ainsi que sans Dieu, il ne peut achever son travail. Savoir s'arrêter, c'est aussi prendre le risque de poser un regard sur soi, sur sa vie, sur les choix que l'on pose. C'est accepter de se confronter à la parole de Dieu qui veut mettre en lumière toutes les obscurités de notre existence. Savoir s'arrêter peut faire peur. C'est pourtant le seul moyen de rencontrer le Christ, de l'écouter et de découvrir son amour.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine en langue française.